Avis critique.
Raphaël Bourgois. Les idées au banc d'essai, avis critique explorent toutes les disciplines et les indisciplines. Ce soir, comme chaque semaine, deux essais sous les feux de la critique, deux ouvrages pour repenser l'action écologique. Nous parlerons d'abord d'un livre événement, Perdre la Terre, du journaliste américain Nathaniel Rich, une coédition Seuil, édition du sous-sol. Fruit d'une enquête minutieuse, servie par un sens du récit assez rare sur des sujets aussi austères, l'auteur nous plonge dans ce bref moment, au tournant des années 70 et 80, quand les États-Unis ont failli, et oui, prendre la tête de la lutte globale contre le réchauffement climatique. La question qu'il pose est simple et effrayante. Nous aurions pu sauver la Terre, pourquoi n'avons-nous rien fait? Mais s'il est trop tard pour empêcher le réchauffement climatique, il est encore temps de militer. Dans Face à l'effondrement, publié au PUF, le politiste Luc Semal retrace l'histoire des mobilisations écologiste pour montrer que le catastrophisme, tant qu'il est éclairé, n'est pas une fascination paralysante. Il génère au contraire une pensée politique propice à la délibération et à l'action. De quoi régénérer la démocratie. Et pour parler écologie ce soir, deux invités en studio, deux participants habituels de cet avis critique, Catherine Portevin de Philosophie Magazine. Bonsoir Catherine.
Bonsoir.
Et Thibaut Sardier de Libération. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors je vous propose de commencer par le livre de Nathaniel Rich, Perdre la Terre, une histoire de notre temps, publié en coédition donc Seuil, édition du sous-sol, dans une traduction de David Fauquemberg. Nathaniel Rich est donc journaliste, il écrit pour le New York Times, dans lequel il avait fait paraître un article en août 2018 qui a servi de base à ce livre. La thèse en est très simple, je la rappelle, les États-Unis savaient déjà tout sur le réchauffement climatique en 1979. L'opinion publique américaine, comme les élus, étaient convaincus et sensibilisés au sujet. Même les géants pétroliers comme Exxon se préparaient aux inévitables réformes d'un modèle économique fondé sur l'extraction et l'utilisation d'énergies fossiles. Pourtant, rien n'a été fait. Il y a même une date retenue par Nathaniel Rich pour ce rendez-vous manqué de la planète avec le climat, la conférence de Noordwijk aux Pays-Bas qui accueillait en novembre 89 les ministres de l'environnement de plus d'une soixantaine de pays pour s'entendre sur le principe d'un accord juridiquement contraignant limitant les émissions de gaz à effet de serre. Voilà donc pour le propos, l'essai est une longue démonstration mise en récit avec une formidable galerie de portraits, des cliffhangers, des rebondissements, la couleur de la cravate des participants à telle ou telle réunion. Il y a aussi les gentils, l'activiste Ralph Pomerance, le scientifique Gordon MacDonald, le jeune Al Gore et les méchants, essentiellement les républicains, la compagnie pétrolière Exxon et le premier chef de cabinet de George Bush père, John Sununu. C'est efficace, bien documenté et utile à l'heure où on a peine à tenir le moindre objectif en matière de climat. Catherine Portevin, c'est un essai qui se lit comme un roman ou plutôt comme une narrative non-fiction dont les Américains ont le secret.
Moi, je crois même que c'est les prémices d'une série type « À la Maison Blanche » version verte ou « Les hommes du président », enfin quelque chose comme ça.
HBO a déjà acheté les droits.
Moi, j'en suis absolument certaine. En tout cas, c'est vraiment construit comme ça, avec il assume complètement et finalement, c'est un petit peu comme quand on voit des vieux westerns, on est assez content de voir qu'il y a un camp du bien et un camp du mal, qu'il y a des méchants, des héros, des victimes aussi. Donc, c'est très efficace, comme vous l'avez dit. Et surtout, moi, je me suis demandé un peu en dehors de cette narration, de ce storytelling, à quoi ça servait finalement? Qu'est-ce qu'on y apprenait réellement? Qui n'avait pas été facile de convaincre l'opinion mondiale de la réalité du réchauffement climatique, ça c'est une chose, mais c'est surtout qu'est-ce qu'il y avait dans le passage entre l'information et l'action? Et quelle action? C'est plutôt ça qu'il raconte sur ces 10 années. Quelle action pour sauver le climat? Et là, c'est la chose qui est la plus intéressante, de voir comment, en fait, il y a une espèce de résistance à. On en parlera peut-être en parlant du livre de Luc Semal de l'autre côté tout à l'heure. C'est-à-dire d'une résistance à comprendre, non pas seulement à le comprendre, non pas seulement à le croire, mais au fait Que ça arrive jusqu'au moment où on va pouvoir se dire qu'il y a une urgence à agir.
La fameuse dissonance cognitive.
Alors c'est la fameuse dissonance cognitive, c'est aussi un rapport à l'avenir qui est problématique et qui sert un peu de fil d'interrogation tout au long de ce récit. Alors il y a quelque chose de palpitant, effectivement, beaucoup de noms. Il faut bien s'attendre à ce que ce soit un récit exclusivement américain. Ça a des avantages. Certains inconvénients, surtout quand en novembre 89, il n'est même pas question, au moment de ce sommet de Nordvik, il n'est même pas question de la chute du mur de Berlin qui vient juste d'arriver, de même qu'il n'est pas question de Tchernobyl comme étant un élément extrêmement important dans la prise de conscience mondiale du danger climatique. Enfin bon.
Ou même de l'article que Jean Jouzel avait fait paraître, voilà. Je crois que c'était en 88 dans Nature, et qui était justement l'article qui prouvait le réchauffement de la planète, parce que jusque-là, quoi qu'on dise Nathaniel Rich, le réchauffement de la planète n'avait pas été prouvé véritablement.
On a du mal à penser que ce qu'il affirme dès le départ, que la science savait déjà tout en 79.
Elle savait déjà beaucoup
plus qu'on ne croit. Mais après, il fallait le prouver, parce que c'est que par la preuve qu'on pouvait convaincre de la nécessité.
Oui, justement, oui, c'est vrai que c'est vraiment ça qui est au cœur de ce livre, hein, Perdre la Terre, de Nathaniel Rich. Thibaut Sardier, c'est comment on passe du savoir à l'action. C'est évidemment toute la question quand on parle d'écologie. Disons tout de suite que cette question de la narration, elle est importante dans ce livre. On la retrouvera aussi dans le livre de Luc Semal comme un élément fondamental, finalement, pour dépasser cette espèce de paralysie qui nous saisit tous quand on pense que le réchauffement climatique, eh bien, la promesse, c'est l'apocalypse à peu près généralisée sur la planète Terre. Donc forcément, pour se mobiliser, c'est pas toujours très très facile.
C'est un peu le problème. Et alors, dans ce passage du savoir à l'action, le problème que pointe évidemment Nathaniel Rich, c'est que de l'action, il n'y en a pas, puisque, vous l'avez dit, dans ce sommet de 89 aux Pays-Bas, finalement, personne n'arrive à se mettre d'accord. Aucun accord, aucun engagement contraignant de la part des pays réunis, ce qui veut dire que finalement, à part les militants déjà convaincus, l'action, je trouve qu'elle n'est pas si présente dans ce livre. En revanche, l'un des apports peut-être du livre, c'est de voir comment s'élabore la communication entre le savoir et l'action, la communication avec les scientifiques, la communication politique, pour défendre cette idée que les émissions de CO2 dans l'atmosphère posent un véritable problème. Alors, il y a un passage qui revient au moins à deux reprises dans le livre, c'est quand Nathaniel Rich dit « Al Gore l'avait saisi dès 80, la crise climatique, comme la plupart des drames humains, à ses héros, ses méchants et ses victimes. » Vous l'avez déjà évoqué, cette idée qu'une forte narration permet justement de dramatiser le propos et de susciter l'adhésion du public. C'est comme ça que Pomerance finit par défendre l'idée d'un objectif de 20% d'émissions de gaz à effet de serre en moins d'ici 2020.
Donc Rev Pomerance, qui est un militant écologiste et qui fera, on va dire, le go-between pendant toutes les années 80 entre les scientifiques et les hommes politiques, pour faire prendre conscience de l'urgence et de l'importance de ce défi du réchauffement climatique.
Voilà, et c'est ça qui est effectivement est intéressant, de mettre Pomerance au centre du livre, puisque c'est cet homme-là qui finalement navigue entre les milieux politiques, entre les milieux militants, qui découvre petit à petit un milieu scientifique qu'il semblait assez peu connaître depuis le début. Donc c'est à la fois l'apport, c'est ce qui fait aussi la richesse narrative du propos, parce qu'à travers ce personnage un peu secondaire, on découvre toute une série, toute la galerie de personnages qui en découle ensuite. Ça donne effectivement un côté très série, très roman à cet essai. Après, la limite, c'est la question du point de départ. On démarre en 1979, quand Pomerance, justement, dans son bureau, un jour, découvre cette question du CO2 dans l'atmosphère. Mais finalement, il y a plein de dates qui sont citées par Rich lui-même au fil du livre et qui auraient pu tout aussi bien servir de point de départ. Alors, si on remonte très loin, il évoque 1859, quand le physicien John Tyndall met en évidence l'effet de serre. Il évoque aussi 1979, la catastrophe de Three Mile Island, qui a une répercussion importante dans la sphère du débat public. Et peut-être que le point faible du livre, c'est en se focalisant justement sur ces communicants, cette sphère du pouvoir, de rater la structuration de l'opinion publique. Il se contente de dire l'opinion publique entre 79 et 89 était prête, mais en fait, il ne le décrit pas tellement que ça. Et du coup, on ne sait pas très bien dans quel contexte véritablement s'inscrivent ces débats politiques aux États-Unis qu'il nous décrit.
Alors, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai quand même appris quelque chose qui m'avait complètement échappé, c'est à quel point loin. Quand on voit aujourd'hui les États-Unis, le rapport qu'ils ont au réchauffement climatique, notamment l'actuel président Donald Trump, à quel point, au tournant des années 70-80, que ce soit les républicains ou les démocrates, tout le monde était vraiment convaincu de la réalité déjà du réchauffement climatique, de la nécessité de lutter. Il y a même du côté des républicains un certain nombre de personnalités pour dire le vrai conservatisme, c'est un conservatisme qui évidemment conserve la planète et donc qui doit lutter contre le réchauffement climatique. On voit que dans tous les discours de présidents depuis Lyndon Johnson, en passant par Ford, Carter, Nixon, là, j'ai pas fait dans le, je ne l'ai pas fait dans l'ordre, mais vous me pardonnerez, ils me viennent comme ça. Et évidemment, George Bush, alors Reagan est un petit peu à part, on aura l'occasion d'en parler parce que c'est important dans le livre. Ils ont tous pris en compte ce défi du réchauffement climatique. Quel retour en arrière aujourd'hui, Catherine Portevin. Et c'est vrai que ça, c'est quand même un apport assez important du livre.
Ah oui, ça, c'est vraiment la chose.
J'ignorais
que Jimmy Carter avait fait installer des panneaux solaires
sur le toit de la Maison Blanche.
Enfin, c'est un détail, mais qui est tout à fait significatif. Et surtout que George Bush, dans sa campagne, s'est présenté comme le champion de l'écologie.
George Bush père.
88, enfin, la campagne de 88. Et ça, c'est très étonnant. Effectivement, en tout cas, ça peut donner du grain à moudre à des débats contemporains sur l'écologie est-elle de droite ou de gauche, parce que là, on voit bien que ça n'est pas une question d'abord idéologique. En revanche, ce que je trouve complètement qui est peut-être pas assez présent, qui est peut-être aussi un point faible du livre, c'est vraiment s'intéresser à de quoi était constitué le fameux climato-scepticisme qui s'est installé non pas dès le départ, puisque ça c'était aussi un point très important du livre, c'est de voir les compagnies pétrolières, Exxon en particulier, se préoccuper de la transition écologique très très tôt et de même d'investir des millions de dollars pour la recherche, pour savoir justement qu'est-ce qui va se passer ensuite et comment à un moment donné on rentre dans un climato-scepticisme militant dont il parle pas, il l'évoque d'une manière générale, mais il dit pas comment ça s'est justement, comme on parle de bataille d'idées, parce que c'est vraiment beaucoup plus une bataille d'idées qu'une bataille d'action. Comment est-ce que finalement on est passé d'un moment où en 2005, dit-il, 68% d'Américains étaient au courant de l'effet de serre et en étaient inquiets, à, dit-il aussi, en 2018, 90% d'Américains qui ignorent même l'existence d'un problème climatique. C'est là le point central de ce climato-scepticisme dont on n'a pas idée tellement en France, parce qu'il y a eu des représentants de ce climato-scepticisme chez les scientifiques type Claude Allègre ou d'autres, mais qui ont, me semble-t-il, pas eu tellement autant d'impact dans l'opinion publique française, mais qui ont une puissance extrêmement importante. Et c'est cette puissance-là que dénonce, par exemple, Bruno Latour dans son dernier livre, qui s'appelle « Où atterrir ?», où précisément il raconte aussi, d'une certaine manière, de façon un peu plus ramassée, cette histoire-là de ce retournement des oligarchies pétrolières en particulier, et des scientifiques.
Oui, Thibault Sardier, comment le climato-scepticisme a pris corps aux États-Unis? C'est vrai que c'est pas au cœur de ce livre qui, encore une fois, nous livre une narration très très bien ficelée avec un point A, un point B. Enfin voilà, on sait où on va, même si on découvre beaucoup de choses. C'est vraiment écrit et c'est assez agréable à lire, hein, d'ailleurs. Il faut le dire, c'est assez haletant, ça se lit presque comme un polar. Ce climato-scepticisme, on le voit bien apparaître en creux quand même, avec d'abord le rôle des lobbyistes, du lobbying, que ce soit du côté du charbon ou du pétrole. L'argent investi par Exxon, notamment, pour essayer de voir comment il pourrait évoluer, c'est un argent investi dans la science qui ensuite va servir ce que Naomi Oreskes appelle les marchands de doute, hein, c'est-à-dire servir une science pour mettre le doute sur la réalité du réchauffement climatique, ou en tout cas de ses conséquences, que c'est toujours un petit peu l'idée, c'est pas de contrer la science, mais de l'accompagner pour détourner l'attention de tout le monde. Donc c'est présent quand même, hein, dans le livre de Nathaniel Rich.
Bah, c'est un petit peu la limite de ce récit. J'ai parlé tout à l'heure de la difficulté de démarrer en 79. Là, on pourrait du coup pointer la limite de s'arrêter en 1989. Et d'une certaine façon, on pourrait presque lire l'essai en se contentant de l'introduction et de l'épilogue, qui justement finalement dessine la thèse, évoque au début le contexte qui précède, et puis de façon très ramassée, évoque les des conséquences après 1989, mais de façon tellement synthétique qu'effectivement on en rate un petit peu la substance. Alors néanmoins, effectivement, dans le récit, il y a quelques explications sur le développement de ce climato-scepticisme. Alors d'abord, sur George Bush, il y a quand même une ambiguïté assez forte. Certes, il est présenté pendant la campagne comme un champion de l'écologie, notamment face à ses adversaires. Il faut quand même souligner que, visiblement, dès qu'il arrive à la Maison Blanche, le discours change, et c'est justement l'une des clés importantes du revirement américain dans cette conférence de 1989. Ensuite, la posture des compagnies pétrolières et des scientifiques qu'elles financent est aussi une des données pour expliquer la naissance du climato-scepticisme, puisqu'elle passe d'une forme d'attentisme partagé par les scientifiques qui défendent les compagnies pétrolières et le milieu politique. Par exemple, à la fin de son mandat, Carter demande un rapport scientifique avec des mesures concrètes à mettre en place. Ce rapport met 3 ans à être élaboré, et Reagan, pendant 3 ans, s'abrite derrière la nécessité d'attendre les conclusions de ce rapport. Et cette rhétorique du « attendons que les scientifiques nous donnent des données précises pour pouvoir agir » va s'imposer pendant 10 ou 20 ans pour justement éviter d'agir et de mettre en place des actions trop conséquentes. Et puis, petit à petit, et ça, pour le coup, Rich ne fait que l'esquisser, ce discours attentiste va petit à petit s'effriter au profit d'un discours qu'on pourrait presque qualifier de fake news, où on nie littéralement les conclusions scientifiques qui, pour le coup, font a priori vraiment consensus, au moins depuis 1979.
Catherine Portevin, on découvre aussi, en creux encore une fois, à quel point les scientifiques ont pu être importants dans la prise de décision politique aux États-Unis, qui se targuait d'être une nation dirigée depuis Jefferson, on peut dire, voilà, depuis le XVIIIe siècle, être une nation qui était dirigée aussi par le savoir, la connaissance, et on voit l'importance des scientifiques, là, même au sein d'une entreprise comme Exxon, une entreprise aussi importante qu'Exxon, peut-être qu'ils sont toujours aussi importants, d'ailleurs, j'en sais rien, mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'aux États-Unis, aujourd'hui, être la parole scientifique n'est pas tout à fait valorisée à la hauteur de ce qu'elle a pu être à cette époque-là. C'est ça aussi qu'on voit dans cette décennie.
C'est vraiment un des sujets du livre aussi, c'est-à-dire l'alliance entre les scientifiques et les politiques, où les politiques gardent tout de même la décision, et d'ailleurs c'est eux qui faillissent à ne pas pouvoir décider, mais l'importance des scientifiques est très très mise en valeur, notamment aux États-Unis. Et ça, c'est vraiment, alors dès le départ, on nous parle aussi d'un comité de Jason, qui est vraiment comme une sorte de commissariat au plan, qui a disparu dans la Constitution française, mais qui est véritablement là
un plus groupe de scientifiques chargés de
sur tous les sujets, parce que là il travaille pas seulement sur le climat, mais aussi ça peut servir aussi à la sécurité intérieure, à la sécurité
sur le nucléaire, qui est toujours un sujet très important.
Qui ont vraiment, ce sont que des scientifiques là à ce moment-là. Je trouve que ça, c'est quand même extrêmement intéressant de penser cette alliance-là. En même temps, les États-Unis, c'est quand même le pays du Manhattan Project qui a travaillé à la conception de la bombe atomique. Et voilà, il y a quand même des relations politiques et scientifiques qui sont un peu entachées de d'instrumentalisation à des fins qui ne sont pas forcément seulement nobles. Mais en tout cas, ça n'est pas du coup, on sent très bien que ça n'est pas du tout, que c'est dans les mœurs, que c'est même dans le devoir américain, le devoir civique américain pour un scientifique de travailler au profit de son pays, ou même que ce soit privé ou public d'ailleurs, et donc de mettre la science à la disposition de la société. Et donc ça, il y a quand même une sorte de noblesse du rôle du scientifique
qui apparaît bien
dedans. Voilà.
Et c'est vrai que je parlais du récit, les récits que fait Nathaniel Rich, de la façon dont Al Gore prépare les réunions et notamment les commissions qui sont publiques. Hein, on connaît maintenant, même en France, cette espèce de grande messe où il y a des congressmen et des sénateurs qui soumettent à la question tel ou tel scientifique, tel ou tel dirigeant d'entreprise, et comment Al Gore prépare, je sais plus si c'est McDonald's ou un autre
c'est
James Hansen, dont
il faudrait parler d'ailleurs.
Ouais, dont on va parler à l'instant puisqu'il nous reste peu de temps. Voilà, il le prépare bien pour servir sa cause, parce qu'il veut que ça fasse la une du 20h, pour parler de la sorte, Thibaut Sardier.
Oui, effectivement, la relation Al Gore-James Hansen, elle est intéressante pour voir comment, ces accointances entre le politique et le scientifique, puisque effectivement Hansen est l'un des scientifiques les plus alarmistes, on va dire, dire sur la question. Al Gore se trouve en difficulté.
Rappelons que c'est lui qui avait fait les premières modélisations de ce que ça ferait le réchauffement climatique sur la planète.
Voilà. Oui, voilà, on le voit. On le voit au début de l'essai, observer des planètes lointaines, leur atmosphère, et puis petit à petit, justement, son travail se concentre plus sur l'atmosphère de notre planète et sur cette question des émissions de CO2. Et donc, lorsqu'il rencontre Al Gore voit aussi l'opportunité politique qu'il y a à le faire s'exprimer devant les commissions du Congrès. Et donc, il s'arrange avant pour savoir comment va se dérouler l'audience, notamment sur une intervention où James Hansen voit son propos recomposé par le cabinet du président. On lui dit qu'il ne faut pas dire ceci, qu'il faut présenter les choses de façon plus souple. Et finalement, il se parle avec Al Gore avant. James Hansen fait son discours tel qu'on le lui a demandé. Et puis la première question d'Al Gore, c'est pourquoi avoir autant changé votre jugement par rapport au passé, ce qui permet à Hansen ensuite d'expliquer qu'on lui a demandé de mentir. Donc finalement, on voit très bien comment aussi les scientifiques sont utilisés dans le discours politique. Et ce ne sont pas non plus les derniers pour accepter de jouer le jeu, puisque si on va cette fois-ci du côté des scientifiques qui nuancent la thèse du réchauffement climatique, ce sont d'une certaine façon, d'après l'essai, eux qui inventent le vocabulaire qui va permettre aussi de ne pas être trop alarmiste, de ne pas trop agir. Par exemple, Nathaniel Rich cite des scientifiques qui disent « Nous allumons simplement un voyant orange, ce n'est pas la peine de s'alarmer, le rapport qui a été présenté auparavant est inutilement alarmiste, l'agence a proposé un truc mal fait en référence à un rapport, l'idée de transition progressive qui mènera ensuite au développement durable, dont il est d'ailleurs assez peu question en tant que tel, tout cela, les soubassements apparaissent entre 79 et 89, et encore une fois, j'insiste, finalement, de la bouche des scientifiques. »
Juste un mot quand même, puisqu'on a parlé là de ce livre assez longuement, pour dire qu'il y a le journaliste Sylvestre Huette, qui est un journaliste scientifique très sérieux, qui était à Libération avant, et qui maintenant publie son blog Science au Carré sur lemonde.fr, qui a fait une recension, on va dire, assez sévère du livre. Il parle évidemment un petit peu de naïveté politique, notamment sur George Bush, en disant voilà, c'est pas vraiment le candidat de l'écologie. Il a relevé un certain nombre aussi d'incohérences sur les dates, etc. Et il a fait remarquer, comme vous l'avez fait tout à l'heure, Catherine Portevin, à quel point le livre s'était auto-centré sur les États-Unis, qui sont certes le premier pollueur, qui sont certes aussi nécessaires si on veut penser une action internationale pour le climat, mais qui ne sont évidemment pas les seuls acteurs sur la planète de cette question. Voilà, il fallait le dire quand même avant la fin de cette émission, mais vous vouliez peut-être rajouter sur Hansen ou...
Non, parce qu'en fait, effectivement, j'ai lu cet article de Sylvestre Huette et qui a quand même mis le doigt sur un malaise, moi, que j'ai ressenti quand même à la lecture de ce livre. D'une part, sur quelque chose d'assez superficiel en termes d'informations scientifiques. Et d'autre part, tout d'un coup, un retournement moral dans l'épilogue, alors qu'il vient de nous montrer à quel point ce ralentissement, ce blocage complet de l'action en faveur du climat était aussi une bataille d'idées, d'intérêts, etc. Et il nous fait tout d'un coup un épilogue ultra-moral sur le thème, c'est dans la nature, en gros, c'est dans la nature humaine d'être aveugle, et d'une certaine manière, nous sommes tous complices de ce crime contre l'humanité. Et je trouve qu'il y a une phraséologie, une espèce de rhétorique autour de on savait mais on n'a rien fait, je suis pas sûre qu'on ait besoin de ce genre de rhétorique aujourd'hui pour lutter contre le réchauffement climatique et convaincre les politiques d'agir, parce que en faisant de nous tous des complices, et d'ailleurs c'est une rhétorique très importante dans la question du combat écologique qu'on peut retrouver à d'autres stades, de savoir si on doit se sentir coupable parce que on n'a pas posé son yaourt dans la bonne poubelle, et si on fait marcher un sèche-linge, et toutes ces choses-là sont extrêmement présentes. Il y a cette part fortement morale du discours écologique sur lequel je trouve qu'on pourrait avoir un peu de...
C'est une belle transition.
De même qu'il parle une belle transition, d'une sagesse immémoriale des générations précédentes. Ça. Avant le XXe siècle, la révolution industrielle, il y a quand même eu quelques crises écologiques auparavant, pas tout à fait de la même nature, mais peut-être qu'on peut pas trop non plus idéaliser le passé avant la période qui l'intéresse lui en particulier.
Ouais, c'était justement l'un des thèmes du livre de Jared Diamond sur l'effondrement. Quelle transition parfaite vers le prochain livre dont nous allons parler, mais... Un petit rappel, nous parlions à l'instant de Perdre la Terre, une histoire de notre temps par Nathaniel Rich. C'est donc au Seuil, édition du Sous-Sol.
France Culture. Avis critique.
Raphaël Bourbois.
Si le battement d'aile d'un papillon quelque part au Cambodge déclenche sur un autre continent le plus violent des orages, le choix de quelques-uns dans un bureau occidental bouleverse des millions de destins, surtout si le bureau est ovale. Il n'y a que l'ours blanc qui s'étonne que sa banquise fonde. Ça ne surprend plus personne de notre côté du monde. Quand le financier s'enrhume, ce sont les ouvriers qui toussent. C'est très loin la couche d'ozone, mais c'est d'ici qu'on la perce. C'est l'effet papillon, petite cause, grande conséquence. Pourtant jolie comme expression, petite chose, dégâts immenses. On l'appelle retour de flamme ou théorie des dominos. Un murmure devient vacarme, comme dit le proverbe à propos. Si au soleil tu t'endors, de biafine tu t'enduiras. Si tu mets une claque au videur, courir, très vite tu devras. Si on se gave au resto, c'est un fait, nous grossirons. Mais ça c'est l'effet cachalot. Revenons à nos moutons,
à nos papillons.
Un hôtel, un après-midi, aventure extra-conjugale, puis le coup de boule de son mari. Alors, si ton nez te fait mal,
c'est l'effet papillon. C'est normal, fallait pas te faire choper. Si par contre t'as mal au front, ça veut dire que c'est toi le mari trompé.
Deuxième temps de l'émission, je vous propose maintenant de nous intéresser au livre de Luc Semal, Face à l'effondrement, militer à l'ombre des catastrophes, publié aux Presses universitaires de France, dans la collection L'écologie en question. Puisqu'on a compris que le pire était certain, ce qui explique que les collapsologues aient le vent en poupe, puisque le réchauffement est déjà en cours, l'effondrement des espèces avérées, la raréfaction des ressources évidentes, pourquoi encore se lever le matin? Eh bien pour militer, nous dit Luc Semal, qui retrace dans ce livre l'émergence et l'évolution des mobilisation écologiste nécessairement saisie par le catastrophisme. Ce maître de conférences en sciences politiques au Muséum National d'Histoire Naturelle reprend en quelque sorte la question là où Nathaniel Rich la laisse, l'énonciation claire et sans concession d'une situation de catastrophe globale d'une part et d'autre part une forme d'insouciance politique à cet égard laisse-t-elle un espace, même minime, pour l'action? La réponse, heureusement, est oui, car Semal analyse le catastrophisme écologiste comme un phénomène idéologique et donc de nature politique, souvent perçu comme l'élément le plus rébarbatif et démobilisateur de l'écologie, une sorte de porte ouverte à l'autoritarisme et au fascisme vert. Le catastrophisme est considéré ici comme un outil puissant pour changer notre rapport au monde. Thibaut Sardier, le livre est composé de 6 chapitres. Les premiers chapitres plantent le décor, prennent des exemples concrets de réponses à l'effondrement, comme le mouvement décroissant ou le mouvement en Angleterre Transition Towns, propose une galerie de portraits de catastrophistes pour se terminer par 2 chapitres très intéressants sur le rôle des émotions et des récits. C'est un essai qui pose finalement la question de la démocratie.
Oui, en fait, alors vous programmez extrêmement bien votre émission, hein, puisque les deux essais sont, à mon avis, extrêmement complémentaires.
Et vous avez vu, j'ai bien fait dans l'ordre.
Hein. Et vous avez bien fait dans l'ordre chronologique, absolument. Justement, puisque donc Rich, on l'a dit, se concentre sur la période 1979-1989. Luc Semal, d'une certaine façon, prend la période suivante, puisqu'il s'intéresse, à partir de la fin des années 80, et surtout dans les années 2000-2010, à l'émergence, justement. Alors, pas forcément de toutes les mobilisations écologistes, mais de ce mouvement très particulier qui semble avoir le vent en poupe aujourd'hui, qui est celui justement qui s'est approprié le catastrophisme et ce risque d'effondrement, donc qui ne résume
qu'on appelle la collapsologie,
voilà, qui ne résume pas le militantisme écologique. Là où Rich avait un récit journalistique proche parfois du roman et de la narration, on l'a dit, alors ce mal est un peu plus austère, hein, c'est la traduction d'un travail de doctorat, mais néanmoins, moi je trouve que voilà les aspects techniques qu'il développe et théoriques sont tout à fait importants justement pour comprendre la réémergence aujourd'hui de ce mouvement. Et puis là où Rich prenait la politique par le haut avec les responsables du Congrès, de la Maison Blanche, les grands scientifiques, Semal lui repart par le bas finalement en s'intéressant aux mobilisations citoyennes et au fait que finalement cette idée catastrophiste, surtout si on prend le mouvement des Transition Towns britanniques, a émergé par le bas par des citoyens inquiets qui petit à petit ont recréé du collectif et ont proposé des solutions. Donc c'est à mon avis ça ce qui fait la richesse de ce livre, de questionner effectivement le fonctionnement démocratique en montrant comment les citoyens peuvent s'emparer des questions écologiques à l'échelle locale, notamment pour véritablement changer la situation. Du moins c'est ce que lui espère, puisque si l'essai se veut neutre, on comprend tout de même dans quel camp il se place. Dernier point pour présenter le livre, vous l'avez dit Raphaël, il s'intéresse à l'idée de changer de récit, et là où on peut justement bien faire le lien entre les deux essais, c'est que ce qui se passe après l'échec de la conférence aux Pays-Bas en 1989, c'est l'édification d'un discours qui va devenir dominant sur le développement durable, sur l'idée que il y a une hypothèse continuiste de notre modèle de civilisation, de développement, qu'on va pouvoir simplement amender en limitant peut-être les émissions de gaz à effet de serre, en assurant une transition écologique.
En recyclant.
Or, ce discours montre aujourd'hui ses limites, nous dit Luxemal. Il faut donc inventer un nouveau récit de civilisation, de société, qui permette de renouer avec une forme d'action écologique exigeante, sans compromettre la démocratie.
Oui, je le disais, Catherine Portevin, le catastrophisme sur l'avenir de la planète a souvent été pointé du doigt comme justement l'élément un petit peu le point faible du discours écologiste et parfois même fascisme vert, je vais employer cette expression en souriant, mais c'est vrai que c'est une critique qui a pu être faite, c'est-à-dire avec un tel discours, comment penser autrement la politique que sous forme d'un autoritarisme qui va comme ça asséner les mesures écologistes. Et c'est l'inverse que nous explique Luxemal, il nous dit que ça peut être un aiguillon démocratique.
Alors, je ne suis pas sûre qu'il nous convainque absolument de l'aiguillon démocratique, mais en revanche, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que, à ma connaissance, c'est vraiment le premier livre, enfin, je ne suis pas une spécialiste des questions écologiques, mais c'est le premier livre qui essaye de, en gros, sauver le catastrophisme. Enfin, il faut sauver le soldat catastrophiste, alors que, et sur ce point-là, je trouve qu'il est assez, convaincant.
Il y a quand même le catastrophisme éclairé de Jean-Pierre Dupuis.
Voilà, mais justement, le thème de l'effondrement est devenu extrêmement fécond dans les études écologiques. Le terme provient en partie du livre de Jared Diamond, l'anthropologue qui a écrit ce livre l'effondrement en 2005 et qui décrivait les conditions par lesquelles dont des conditions écologiques mais pas seulement par lesquelles les civilisations s'effondraient. Son exemple était beaucoup pris autour de l'île de Pâques et la civilisation de l'île de Pâques. Ce terme-là a été repris par Diamond. Mais on peut le refaire, et c'est ce que Luxemal fait, une généalogie un peu intellectuelle et de la question du catastrophisme, qui on retrouve vraiment tout le temps dans les bibliographies de ses ouvrages, y compris de ceux de Jean-Pierre Dupuis, qui va de Günther Anders et sa réflexion post-Hiroshima et sur l'obsolescence de l'homme et sur la technique, à Ulrich Beck, qui est un personnage beaucoup plus, peut-être plus intéressant, plus contemporain, qui a écrit ce livre formidable qui s'appelait Société du risque. Voilà, comment est-ce qu'on fait de la politique dans un monde incertain. Et puis les grandes figures plutôt dans le versant plus moral, éthique, comme Hans Jonas et le principe de responsabilité, et Dupuis, dans un versant, le catastrophisme éclairé de Dupuis, qui est un versant qui finit par être pratiquement religieux et messianique, c'est-à-dire nous sommes dans la position d'attendre l'apocalypse, il faut justement être certain que l'apocalypse arrive pour pouvoir agir pour le bien et pour le salut. Alors, c'est là où il y a toujours un peu un soupçon de ces théories autour du catastrophisme, de ces arguments catastrophistes, d'abord, premièrement, effectivement, de leur dérive vers quelque chose d'autoritaire ou de religieux, deuxièmement, la question de leur efficacité. si on me fait tellement peur, est-ce que je vais agir? Et donc on retrouve, comme toujours, la question qu'on a évoquée tout à l'heure aussi, c'est-à-dire de est-ce que savoir c'est croire et est-ce que croire c'est pouvoir? Ça c'est au cœur de toute la question. Et là, ce mal est assez convaincant en montrant la valeur. Alors on parle pour faire cuistre, on peut dire heuristique de la peur, en fait, ce qui donne sens à la peur et ce qui surtout pousse à l'action. Mais je voudrais signaler deux choses quand même, c'est que d'abord il y a deux livres un peu en un que je trouve pas très bien articulés, c'est-à-dire d'une part une enquête plutôt, enfin une restitution plutôt de la idéologique comme il l'assume, c'est-à-dire la vie des idées, et de l'autre la vie des mobilisations et la vie militante. Et cette articulation me semble vraiment constituer complètement deux livres différents avec deux méthodes différentes. Je trouve quand même qu'il y aurait pu y avoir un effort de l'éditeur à ne pas éditer la thèse plein pot comme ça. Il y a beaucoup de redites, il y a des citations anglaises qui ne sont pas traduites, des références illisibles. Enfin, je trouve que là, il y a quand même un peu trop. Là, il nous en donne
une petite pierre dans le jardin des éditeurs des presses universitaires de France. Catherine,
c'est dommage parce qu'il y a un bon sujet, mais vraiment noyé dans aussi beaucoup de prémices académiques.
Un livre quand même malgré tout très très intéressant, notamment dans sa façon de prendre, non pas de nous parler d'idéologie, mais d'un phénomène idéologique. Il insiste bien là-dessus, Luc Semal, dans ce livre « Face à l'effondrement, militer à l'ombre des catastrophes ». Pourquoi phénomène idéologique? Parce que c'est en faire un outil politique, véritablement, et pas... Parce que c'est vrai que l'idéologie, aujourd'hui, on s'en méfie plutôt...
Voilà, c'est plutôt le versant positif de l'idéologie, comme système de pensée, système de vision et d'interprétation du monde. Et c'est là que ça prend un sens beaucoup plus intéressant. Si on jette une deuxième petite pierre dans le jardin des éditeurs, c'est vrai qu'en plus titré sur l'effondrement pour bien être dans la vague du moment, alors que
il faut les vendre.
Effectivement, vous avez raison. Alors si je suis d'accord avec Catherine sur le fait qu'il y a effectivement deux temps dans cet essai qui ne sont pas forcément extrêmement bien connectés. Alors peut-être qu'on peut quand même essayer de le faire en reprenant finalement la façon dont il chronologise les choses, dont il les présente dans le temps. Il y a trois étapes importantes, si on résume un petit peu. Les années 60-70, durant lesquelles il voit une montée du catastrophisme et la naissance finalement du militantisme catastrophiste à l'aune de deux événements. Premièrement, la menace nucléaire et donc la possibilité que le monde s'autodétruise, qui crée une peur chez les militants et les amène donc à se mobiliser, à poser cette question de la fin du monde. Alors sur un versant plus technologique et moins écologiste, mais le questionnement est le même. Et puis les chocs pétroliers qui d'un coup posent la question dans le débat public américain, et là on aurait aimé le trouver chez Rich justement, de savoir qu'est-ce qui se passe si on manque de pétrole, ne faut-il pas radicalement changer de modèle. Deuxième étape, les années 80. Ce qui est intéressant, c'est que Semal les présente comme des années où les mouvements écologistes ou l'écologie politique s'institutionnalisent, que les partis politiques se structurent, ont une aura dans la sphère du débat public, et que cette institutionnalisation les conduit à adoucir leur discours pour être de plus en plus audibles, et que forcément la perspective d'un monde qui court à sa perte et de la nécessité de changer radicalement les conditions de vie devient quelque chose à mettre évidemment sous le boisseau pour pouvoir convaincre de nouveaux électeurs. Et troisième étape aujourd'hui, le retour de ce discours face aux limites de la thèse du développement durable, à l'assèchement, dit-il, de la maîtrise du réchauffement climatique, on n'y arrive pas, et le fait que par contre se sont restructurés et développés les discours sur la décroissance en France et sur les transition towns dans le monde britannique.
Donc qui rassemble sous le titre du discours des limites.
Voilà, le discours des limites au modèle actuel et la nécessité d'inventer quelque chose de nouveau. Et si on reprend cette chronologie, finalement, on peut assez aisément reconnecter la première partie sur les grandes lignes de structuration théorique et leur évolution au fil du temps, et la façon dont les militants finalement suivent eux aussi ces trois différentes périodes.
Et merci d'avoir fait ce travail de rassembler ces deux livres. On pourrait être optimiste d'ailleurs, Catherine Portevin. Oui. Vous dites il y a deux essais qui sont dans ce livre. On se dit, on achète un livre, on a deux essais en un.
Et encore, c'est un argument pour l'éditeur.
C'est encore un argument pour l'éditeur.
Non, mais je trouve que la partie, moi, j'ai plus été intéressée curieusement par la partie plutôt sur les mobilisations et que par la part histoire des idées qui me semble bon mal adressée, c'est comme on dit, c'est-à-dire à la fois pour ceux qui ont suivi un peu, elle est pleine de banalité, et pour ceux qui voudraient s'y mettre, elle est vraiment trop entortillée dans des process académiques pour qu'on puisse y rentrer facilement. Et c'est un peu lourdingue. Voilà. Mais je trouve que le résumé que vient d'en faire Thibault est beaucoup plus intéressant et plus percutant. Et là, j'ai tout compris. Donc, je suis très content. Mais alors, en revanche, d'ailleurs, pour faire le pont, effectivement, entre ce survivalisme des années 70 et le catastrophisme d'aujourd'hui, on le retrouve dans la sociologie qu'il fait des militants catastrophistes, où il remarque qu'effectivement, en gros, il y a les jeunes et les vieux, il y a ceux qui ont vécu les engagements des années 70 et qui peut-être se sentent un peu redevables, coupables de ne pas avoir réussi à persévérer dans ce militantisme écologique et qui du coup tendent la main et soutiennent les plus jeunes qui, eux, au contraire, sont des néo-militants, enfin bon, qui est... voilà. Alors après, moi, la méthodologie sociologique des pages entières sur la méthode de la sociologie, l'immobilisation, des bouts de terrain comme ça où on sait que Thibault, 30 ans, a eu un choc moral en écoutant une conférence de machin.
C'est de vous qu'il s'agit, Thibault Sardien.
C'est pas vraiment passionnant. Et puis pour tout ça, pour arriver à une typologie de qu'est-ce que c'est que l'engagement catastrophiste, pour dire que l'exposition aux idées catastrophistes constitue un premier déterminant social dans les trajectoires catastrophistes. On dit merci Luc, vous avez bien travaillé. Là, on est très content. Par contre, moi, ce qui m'a un tout petit peu gêné là-dedans, et qui est problématique, mais je trouve intéressant, c'est qu'il décrit vraiment la question de l'entrée dans le militantisme catastrophiste véritablement comme une conversion. Il faut avoir eu un choc, une illumination, comme Saint Paul sur le chemin de Damas, ou je ne sais pas qui. Et il faut pouvoir et être prêt à changer de vie. Il en parle comme ça. C'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle ce sont plutôt des jeunes qui sont encore pas engagés dans la vie active, avec pas de responsabilité familiale, qui peuvent se permettre de faire un retour aux sources et de vivre dans les ZAD, quoi, en gros.
Oui, parce que c'est un peu la question que pose dès le début Luc Semal, c'est-à-dire c'est une chose de prendre conscience de la catastrophe, c'en est une autre de se demander en quoi ça peut changer la politique. Est-ce qu'on est prêt à modifier notre conception de la souveraineté, de la citoyenneté, de la liberté, de l'égalité, de la sécurité? Je veux dire, au-delà de nos conditions de vie matérielle, d'aller vivre dans une ZAD ou de vivre dans un centre-ville très pollué, la question elle est aussi là pour Luc Semal, c'est-à-dire jusqu'où changer la politique avec cette idée de la catastrophe, Thibault Sardier.
Oui, absolument. Sur le militantisme et la conversion, il y a peut-être aussi une distinction générationnelle à faire, puisque il interviewe aussi bien des gens de la génération des années 60-70 qui, eux, ont vécu un choc. En tout cas, c'est comme ça qu'ils se le représentent, cette idée du choc pétrolier, du risque nucléaire, ça sent le vécu, d'une certaine façon. Alors que, quand ils s'intéressent aux nouvelles générations, il y a la certitude qu'ils vont vivre quelque chose de leur vivant, mais que ce n'est pas encore arrivé. Donc, ça décale un tout petit peu, peut-être, la façon dont ce rapport au choc existe. Après, sur les implications effectivement politiques et le lien avec la démocratie, alors je trouve que ce qui est intéressant, c'est de regarder la différence dans la façon dont il décrit le mouvement français de la décroissance, qu'il présente, pour faire simple, comme un mouvement d'intellectuels autour de Serge Latouche, de Pierre Rabhi, qui adresse de grands problèmes politiques, qui justement interpellent les leaders des mouvements écologistes, mais sont peut-être moins militants. Et de l'autre côté, on sent que aussi son cœur penche pour la deuxième option. Ce mouvement des Transition Towns en Grande-Bretagne, sous l'influence d'un militant, Rob Hopkins, qui est beaucoup moins justement intellectuel et beaucoup plus sur le terrain, qui à Totnes propose justement un modèle concret pour changer la ville et l'adapter au changement climatique, et réunit des cercles de militants dans lesquels la parole circule, dans lesquels chacun peut exprimer justement ses craintes, ses peurs, son rapport à la catastrophe, et cette délibération salon, un peu sous forme d'agora si on veut, nous dit Luxemel, devient prolifique, devient constructive, parce que chacun a la possibilité d'exprimer ses craintes et donc d'élaborer un projet de société collectif à partir de ces discussions. Et donc là où la discussion démocratique devient intéressante, c'est qu'il y a une étape de délibération, de parole vraiment ouverte qui permet d'élaborer un projet qui plus est à l'échelle locale, et je pense que cet aspect de pouvoir transformer l'horizon du quotidien est déterminant dans la façon aussi dont ces militants s'investissent, fait que là, ils touchent à un élément de renouvellement de la démocratie qui, pour le coup, pourrait être reproduit.
Oui, quand même un mot, Catherine Portevin, puisque ces livres arrivent aussi dans une actualité politique assez importante du côté de l'écologie. Après les élections européennes, on voit que le Parti écologiste en France ou ailleurs en Europe sont des partis qui viennent centraux dans la vie politique et qui s'interroge justement sur où il se place sur le spectre droite-gauche. Beaucoup disent ni droite ni gauche écologiste en quelque sorte. Semble rappeler Luxemel, à la fois par ses trajectoires de catastrophiste et aussi en citant Andrew Dobson, il ne suffit pas de se dire écolo. L'attachement à la croissance, par exemple, est antinomique avec l'écologie et donc il faut quand même faire des choix qui ne sont pas toujours compatibles avec tout le spectre de la vie politique.
Ça, c'est, je trouve qu'effectivement, c'est intéressant. Je pense pas que ça serait pas mal que peut-être Yannick Jadot lise ce livre ou que ça puisse alimenter. Je pense que c'est effectivement, on voit mal, quel que soit comment on étiquette cette question-là. Je vois mal comment on peut être écolo. Écologiste, conséquent, sans remettre en cause effectivement la croissance et le système de consommation qui est le nôtre. Donc à partir de là, est-ce que ça, c'est d'être de gauche ou être de droite? Après, on se débrouillera après. Mais en tout cas, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y a une écologie qui est compatible avec l'ultralibéralisme. Et d'ailleurs, c'est la conclusion qu'on tire aussi de ce livre. Et donc qui remet, c'est là où la question du catastrophisme finalement moi m'a finalement intéressé, c'est de voir repartir par là quelque chose qui est quand même un vrai levier politique, non pas pour faire exploser toutes les lignes politiques, mais simplement pour redéfinir qu'est-ce que c'est que un programme d'écologie politique. Et ça, de toute façon, André Gortz, qui est un des fondateurs de l'écologie politique, était déjà sur cette ligne-là, de toute façon, sans parler de catastrophe.
Très rapide,
c'est la question qu'il pose avec une distinction posée dans l'introduction. Sommes-nous, voulons-nous être une société environnementaliste qui reconnaît qu'il y a des problèmes d'environnement mais qui pense que la technique nous sauvera, ou voulons-nous devenir une société écologiste qui considère qu'il faut vraiment changer de modèle de société et de rapport au monde?
La question est posée, on attend la réponse. Luxemel, face à l'effondrement, militer à l'ombre des catastrophes, c'est aux presses universitaires de France.
L'instant critique.
L'instant critique, on a été long sur les deux livres dont on vient de parler, sur l'écologie. C'est vrai que c'est une question qui nous préoccupe, évidemment, comme tout le monde. Alors, je vous demanderai d'être assez rapide dans les conseils que vous donnez. Et je vois que vous êtes tous les deux arrivés avec des conseils qui sont en lien avec notre thématique. Catherine Portevin.
Oui, l'édition est très active en termes d'ouvrages sur l'écologie. Et ça, je trouve que c'est vraiment, il y a vraiment une foultitude de livres depuis une dizaine d'années qui paraissent en France. Et je trouve très intéressante. La collection de l'Anthropocène du Seuil. Mais je voulais saluer une petite maison d'édition qui s'appelle White Project, qui fête ses 10 ans justement, et qui est venue de l'intuition d'un jeune homme qui avait 20 ans à l'époque, Baptiste Lanaspez, et qui a constaté le déficit qu'on pouvait avoir en grand livre fondateur de l'écologie. Il a donc été l'éditeur de Arnès, qui est le fondateur de ce qu'on appelait l'écologie profonde, mais aussi des choses plus originales comme Murray Schafer sur le paysage sonore, Kinji Manchi, qui est vraiment aussi le fondateur de l'écologie au Japon. Ce sont des beaux livres, et je voulais saluer le travail de cette maison d'édition, qui donc pour ses 10 ans édite un livre qui s'appelle « Un sol commun, lutter, habiter, penser », qui est le recueil d'entretiens réalisés par Martin Schaffner avec à peu près tous les penseurs de l'écologie aujourd'hui, et je trouve que c'est très intéressant.
Thibaut Sardier.
Alors moi, je vous emmène sur les territoires du survivalisme avec une série proposée sur Internet par France TV Slash, qu'on trouve aussi sur YouTube, qui s'intitule « Survivre », signée du réalisateur Alexandre Pierrin. 5 épisodes de documentaire d'un quart d'heure qui nous plonge dans une galerie de portraits, là encore, autour de figures plus ou moins connues du survivalisme, des individus qui essaient de développer une agriculture dans leur jardin en cas de crise pour avoir quelques mois de subsistance devant eux. On va dans les salons du survivalisme suivre des éditeurs à succès dans ces milieux-là qui flirtent parfois avec la droite ou l'extrême droite, d'autres qui se laissent volontiers aller au placement de produits dans leurs vidéos YouTube avec des couteaux, des boussoles qui sont fournies par des publicitaires, et donc on se demande où est le survivalisme, où est la publicité, un rapport à la violence, ceux qui se préparent à se défendre en cas d'attaque de leur maison, ou encore à accueillir ceux qui voudraient survivre avec eux. Galerie de portraits assez neutre qui permet de vraiment faire le tour de cette question du survivalisme dans notre société.
Et si vous n'avez pas tout à fait le tour, il y a la série documentaire LSD, La fin du monde et nous tous survivalistes. C'est une série qui a été réalisée, produite par Nejma Bouakra. Et il faut l'écouter. Elle est encore disponible en podcast sur le site de franceculture.fr. Merci à tous les deux. Avis critique, c'est terminé. Attaché d'émission, Catherine Donnet à la réalisation. Aujourd'hui, Vanessa Nadjar et à la prise de son, Olivier Dupré. Et tant que vous êtes sur franceculture.fr, téléchargez l'émission Avis critique. Abonnez-vous au podcast. Faites ce que vous voulez, mais réécoutez, car c'est important pour nous aussi et pour vous, j'en suis sûr. Dans quelques instants, Jukebox. Mmh.